Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on est reparti pour une demi-heure de débrief et puis ensuite on aura encore une demi-heure avec pas mal d'innovations. On parlera de bornes électriques, de moteurs électriques et puis on parlera aussi de ces jumelles astronomiques avec réalité augmentée. C'est un Français qui fait ça, Unistellar. On verra tout ça ensemble. Mais pour l'instant, on va revenir sur Volkswagen qui dévoile un plan à 5 milliards de dollars avec Rivian. On a les voyages de Marion en Ukraine et les réseaux télécoms là-bas. AT&T qui voudrait que les big tech, eh bien, viennent un peu mettre un peu d'argent dans la corbeille pour développer les réseaux internet et tout ça, on en parle avec Marion Moreau, journaliste fondatrice d'Ornorm Media, Lucas Perraudin, fondateur du Mula Digital, et Bruno Guglielminetti, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Il est avec nous depuis le Québec. Mais tout de suite, Étienne Braque, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, Volkswagen, on va en parler dans un instant, qui dévoile ce plan à 5 milliards de dollars avec Rivian. Rivian, c'est un fabricant de camionnettes électriques aux États-Unis, mais là c'est sur un plan logiciel. Racontez-nous un peu, décrivez-nous un peu tous les enjeux autour de cette alliance.
Oui, deal très important qui a été annoncé aujourd'hui entre Volkswagen et Rivian. Un deal à 5 milliards de dollars afin de créer une co-entreprise. Alors, vous l'avez dit, Rivian, c'est une société qui fabrique des pick-up électriques, des SUV électriques. Souvenez-vous, elle est rentrée en bourse en fanfare en 2021. À l'époque, le titre était même sur des records historiques au point que sa capitalisation boursière dépassait les 100 milliards de dollars. À l'époque, ça impressionnait tout le monde, surtout à Wall Street, puisque c'était plus que General Motors, sachant que la société avait produit quasiment aucun véhicule. Bon, depuis 4 ans, le cours de bourse s'est littéralement effondré puisque vous avez une capitalisation boursière de 10 milliards ce soir contre plus de 100 milliards il y a 4 ans. Quasiment pas de véhicules qui ont été produits. Le groupe, même en février, qui a annoncé qu'il ne produirait pas de véhicules cette année. Des pertes qui se cumulent. Alors, ce ne sont pas des pertes spectaculaires. On est aux alentours des 4 à 6 millions d'euros depuis 3 ans. Une trésorerie qui est très importante puisque le groupe avait à l'époque levé plus de 10 milliards. Mais le problème, c'est que au niveau opérationnel, ça ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses chez Rivian et puis derrière, ils n'arrivent pas à suivre la cadence. Donc là, avec Volkswagen, ils vont créer une co-entreprise afin d'adapter un petit peu chacun ses spécificités. Volkswagen sait faire des véhicules. Rivian a l'expertise sur l'électrique, a l'expertise sur le logiciel. Et donc, ensemble, d'ici 2025 à 2030, ils vont produire des véhicules ensemble. Alors, pour Rivian, c'est bon dans le sens où Volkswagen va apporter son expertise. Et puis, de l'autre côté, pour Volkswagen, c'est l'occasion de mettre un pied sur le sol américain, un sol qui est très compliqué à pénétrer pour les acteurs européens. La nouvelle est saluée en bourse parce que Rivian gagne plus de 20% ce soir, mais perd toujours plus de 40% depuis le début de l'année. Quand du côté de Volkswagen, le titre a reculé aujourd'hui du côté de Francfort avec une incertitude sur le plan opérationnel, puisqu'à la fin, c'est peut-être plus Rivian qui va gagner dans ce jeu que Volkswagen.
Merci Étienne Braque, Lucas Perraudin. Oui, tout le monde n'est pas Tesla. C'est compliqué de faire des voitures, mais c'est compliqué aussi quand on est constructeur de voitures de faire une plateforme logicielle qui tienne la route.
Ouais. Alors, pour avoir fait quelques fusions-acquisitions entre des industriels et de la tech, notamment avoir acheté Palm avec HP, etc., on peut avoir le meilleur des deux mondes, on peut avoir le pire des deux mondes. Pour être tout à fait transparent, j'ai essayé d'avoir un scoop parce qu'il se trouve que la CMO de Rivian, c'est une ancienne collègue à moi. On a bossé ensemble chez Reality Labs, on se connaît. J'ai envoyé des messages, mais elle m'a, comme disent les jeunes, elle m'a laissé en lui, quoi. Elle m'a pas répondu. Bon, de toute façon, elle n'aurait pas pu me répondre. Jen Penner. Mais, oui, alors effectivement, on a parlé d'électrique, on a parlé de logiciel, on a parlé de capacité industrielle de production. Il manque un mot, c'est la data. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de véhicules Volkswagen qui roulent, qui ne capturent pas beaucoup de données. On a peu de véhicules Rivian qui roulent, mais qui savent capturer
de la donnée. Alors qu'Amazon avait passé une commande à l'époque, hein, il y a 4-5 ans.
Ils sont en cours de livraison à Amazon et Amazon fait de l'électrique. Mais là, bon, dans le monde automobile, toutes les entreprises sont en train de devenir des entreprises de tech. C'est Tesla qui a du souci à se faire. Encore une fois, 50-50. Hein, ce genre de deal, c'est 50% le meilleur des deux, 50% le pire des deux.
Oui.
Donc, si on fait de l'industriel Rivian et de la data Volkswagen, ça va être catastrophique. Mais en tout cas, c'est une tendance qu'on va voir dans le monde automobile. Il y a Lucid, il y a Polestar, donc toutes ces entreprises natives électriques qui vont essayer de se marier avec les groupes Stellantis, etc.
Donc Renault, hein, Luca De Meo a créé même une software alliance avec plusieurs acteurs de la tech pour justement essayer de bâtir cette plateforme logicielle qui
compte sur les Renault. Je pense que ça va être très dur parce que intégrer de la technologie dans les entreprises traditionnelles, pour moi, l'avoir fait faire de la digital transformation aujourd'hui encore, même à l'avoir fait en interne, c'est extrêmement dur. Et une boîte comme Volkswagen, ça va être très très dur.
Surtout qu'on ne descendra pas dans les détails, mais si on décortique la Rivian, elle a aussi un système. Ils ont une spécificité. Hein, les Rivian, ils font du zonage de l'électronique. Voilà, ouais. C'est pas une électronique centrale. On essaie de répartir ça sur les roues, enfin sur les différents éléments de la voiture. Marion.
De toute façon, c'est un sujet qui est prégnant, hein, le logiciel. Depuis qu'on a appelé les Tesla un iPad sur quatre roues, c'est sûr que je pense que le marché de l'automobile a très très bien compris qu'il fallait y aller. Renault est déjà depuis pas mal de temps sur de la recherche, de la R&D dans ses bureaux d'études sur ces sujets-là. Non, c'est un joli coup, effectivement. Je rejoins ce qui a été dit dans la chronique juste avant. C'est un joli coup pour pénétrer le marché américain. Autant y aller, pourquoi pas. Et effectivement, racheter un acteur qui est un peu fragile, mais qui a un savoir-faire, c'est tout à fait logique en fait, en complémentarité.
Oui, on rachète la technologie, on met une entreprise qui va moins bien. Bruno, tu en as déjà vu tourner des Rivian là autour de chez toi?
Au Canada, il y en a encore très peu, sauf qu'il y a le concessionnaire, c'est drôle, qui vient d'ouvrir cette semaine à Montréal. Oui. Mais plus sérieusement, cette entreprise-là, l'entreprise californienne, sont faits d'armes et c'est la raison pour laquelle on en a beaucoup parlé. C'est évidemment par le fait qu'elle était le fournisseur officiel de véhicules électriques d'Amazon.
D'Amazon, oui.
D'ailleurs, c'est eux qui, à l'époque, avaient annoncé que d'ici 2030, ils allaient fournir 100 000 véhicules électriques à Amazon.
Et on parle de ça, c'était il y a 3-4 ans hein, déjà. Ça fait un moment.
Oui,
hein.
C'est ça. Puis entre-temps, voyant que c'est toujours mauvais en business d'avoir qu'un seul client, ils ont commencé à annoncer qu'ils s'étaient intéressés à vendre leurs véhicules à d'autres fournisseurs, ce qui n'a pas vraiment plu à Amazon. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et ils se retrouvaient un peu comme le bec à l'eau. Mis à part leur client Amazon, il n'y avait pas grand-chose. Alors, de voir un géant de l'automobile comme Volkswagen arriver en disant « Ben nous, on est intéressés de travailler avec vous pour que, de part et d'autre, on puisse bénéficier de notre savoir-faire », je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que, du coup, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est de voir de l'argent frais arriver sur Rivian. Ça donne espoir aux gens qui aimaient bien leur véhicule de dire « Bon, ben ils sont là encore pour un bout parce qu'ils ont un partenaire important ». Mais c'est pas vraiment un intérêt de voir Volkswagen arriver ici parce qu'ils sont déjà implantés en Amérique. Oui. Peut-être qu'ils ont encore plus à faire, mais ils sont encore présents. Donc, l'histoire, nous, on la regarde de ce côté-ci en disant, c'est de l'argent frais qui arrive dans les coffres de Rivian. C'est une bonne nouvelle.
On rappelle Volkswagen, c'est Audi, Porsche et Volkswagen, bien entendu. Et puis, il y a peut-être un autre acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est AWS. AWS, c'est un gros partenaire aussi de Volkswagen.
C'est un investisseur, mais c'est travers
investisseur de Rivian, mais
Amazon. Oui. Juste, il reste
mais investisseur, mais aussi gros partenaire cloud de Volkswagen.
C'est un partenaire. Voilà, il reste 6 milliards de dollars sur la balance sheet de cash de Rivian, donc ils sont pas non plus. Ils en ont levé 10. Bon, il n'y avait pas d'urgence financière, ils sont très très loin de la banqueroute aujourd'hui, donc ça, c'était pas un problème. Encore une fois, moi, ce qui me laisse un peu pas sceptique, mais en tout cas, ce que mon expérience de 30 ans de tech et d'intégration et digital transformation me dit, c'est que les Américains disent culture eats strategy for breakfast. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et la culture de Volkswagen versus la culture de Rivian, on se parle de spectralement opposés. Donc, à moins qu'ils aient vraiment une volonté depuis le top de l'entreprise de changement avec une direction très forte et une gestion de la résistance et un management du changement qui soit fort, ça reste une greffe qui aura probablement du mal à prendre. C'est intéressant sur le papier, en exécution pour avoir fait un certain nombre de deals comme ça.
Après, il y a peut-être l'Atlantique qui va un peu séparer les deux, donc qui va permettre peut-être à une direction américaine de Volkswagen d'évoluer plus vite avec Rivian, mais rapatrier
les ingénieurs californiens qui vont aller expliquer aux ingénieurs à Karlsruhe ou à Ingolstadt comment il faut faire des voitures. Moi, je veux bien être dans la salle quand ça a lieu. Enfin, d'ailleurs, en général, on est dans la salle quand ça a lieu, nous, pour nos clients, pour éviter que ça tourne mal. Donc,
Bruno, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet?
Non, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Puis, on parlait du lien, et c'est important de le rajouter. Lucas a fait un bon point, de parler du lien entre AWS, qui est une filiale du groupe Amazon, qui sont très présents dans les activités de Rivian au niveau de comme fournisseur, entre autres, mais aussi comme investisseur. Mais en février dernier, là, il y a quand même le groupe Amazon qui avait perdu, quand on regardait la valeur de Rivian, 1 milliard de dollars, comparativement lorsqu'ils avaient commencé à mettre leur mise au début. J'ai l'impression que c'est aussi une bonne nouvelle du côté de AWS et Amazon de voir Volkswagen
c'est pour ça que j'en parlais.
Oui, c'est un écosystème.
Amazon sont en train de regarder leurs investissements. Rivian, Twitch. Twitch n'arrive pas à gagner de l'argent, donc ils commencent à se poser des questions. Toute cette grosse vague d'investissement, ils sont en train de se demander est-ce qu'il faut sortir ou rester.
Ou est-ce que Google a fait il y a déjà 2-3 ans, déjà commencé à regarder. Voilà pour ce sujet. En tout cas, on suivra ça. On va voir si les Volkswagen réussissent à bénéficier. Enfin, qui sera un peu le voilà. Est-ce que ce sera le win-win ou est-ce que ce sera le lose-lose des deux. On verra tout ça ensemble en suivant cet accord. Marion, on voulait parler avec toi d'Ukraine. Donc les pour ceux qui veulent lire un peu les reportages, c'est dans Hors Média, Hors Normes, donc Normes au pluriel, allez voir. Tu étais en Ukraine et puis tu as vécu au quotidien la reconstruction, tant qu'on peut, des télécoms, la bataille des drones. Enfin voilà, dis-nous en deux mots un peu ce que tu as retenu de ce séjour.
Oui, j'ai effectivement passé 8 jours à la frontière avec la Pologne, à Lviv, qui est une ville relativement protégée de l'Ukraine, qui se trouve complètement à l'ouest, mais qui accueille malheureusement tous les mutilés de guerre. C'est là où il y a une machine, une industrie des drones qui tourne à plein régime, mais évidemment aussi dans les autres régions du pays. Alors globalement, si on doit faire un constat, et moi j'y allais surtout pour deux choses, c'est à la fois les télécoms et les infrastructures. Parce que, souvenez-vous, au mois d'avril, on annonçait quand même plus de 2,3 milliards de pertes sur les infrastructures. C'est près de 60 000 kilomètres de lignes de fibres optiques qui ont été complètement coupées. Et évidemment, c'est une des facettes de la guerre en Ukraine, c'est les communications, les télécommunications, et on parlera peut-être après de Starlink, évidemment. Donc je suis partie couvrir un événement où j'ai rencontré l'écosystème des télécoms ukrainiens, donc les acteurs télécoms nationaux, mais aussi tous les ISP, donc les fournisseurs d'accès au réseau, fournisseurs d'accès Internet. Et ce qu'ils me disaient, c'est que ils ont besoin d'aide, parce qu'aujourd'hui, même si alors la France a annoncé, je crois, un support de 10 milliards via un consortium dans les années qui viennent, même s'il y a des aides internationales, il manque encore énormément aujourd'hui de câbles, surtout de switch, des équipements. C'est vraiment là que,
et notamment, on imagine sur toute la ligne de front, hein, qui est sur des milliers de kilomètres, où là, dès qu'il y a la moindre infrastructure qui est construite, ben hop, elle est détruite pratiquement aussitôt.
Exactement. Donc comme tu le dis, sur la ligne de front qui représente près de 1500 kilomètres en fait aujourd'hui de frontières attaquées et investies par les Russes, où quand même on parle de villages rasés, effectivement là il y a des besoins. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce que j'aurais envie d'appeler les soldats des télécoms. C'est-à-dire qu'on j'ai rencontré des jeunes qui ont parfois même à peine 30 ans, qui sont des gens qui travaillent dans les sociétés de prestations de services télécoms, mais qui vont sur le terrain à Kherson, à Kharkiv, et qui vont reconstruire comme ça des pylônes avec leurs mains et avec les moyens du bord. Et je trouve quand même que c'est intéressant de parler d'eux, parce que quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit s'il te plaît, dis en France qu'on a besoin d'aide, et c'est pour ça que je suis là ce soir aussi, et je te remercie de me donner la parole, parce que en fait ils ont besoin de communication. C'est très vital évidemment pour les citoyens, mais c'est vital aussi pour les hôpitaux. Les hôpitaux aujourd'hui ont été privés largement de connectivité, donc c'est vraiment
sans connexion aujourd'hui. Et puis c'est vital aussi pour les drones, qui servent évidemment à la guerre de façon surveillance, repérer les positions ennemies jusqu'à aller les bombarder. Là aussi, tu disais beaucoup de drones chinois.
Oui, alors ce qui m'intéressait au-delà de l'état des télécoms aujourd'hui en Ukraine, c'est évidemment, alors c'est vraiment étonnant à voir, c'est les coulisses de la guerre des drones. Parce que l'Ukraine, je vous apprends peut-être rien, mais ce qui est très très... ce qui est hallucinant même, c'est le mot, c'est toutes les rues, toutes les écoles, partout on fabrique des drones, partout. Dans chaque rue, il y a une petite, l'équivalent du MJC que j'ai visité, par exemple, avec des jeunes du quartier, qui sont pas mobilisés sur le front, qui ont des imprimantes 3D et qui fabriquent les petites roquettes, qui fabriquent les composants, etc. Et j'en ai interviewé beaucoup, et effectivement le drone chinois est majoritaire en Ukraine. Ils en ont acheté pour plusieurs millions. Très souvent, ce sont des gens qui sont même de la société civile. L'effort de guerre, c'est des gens comme vous et moi qui faisons des drones, qui font des drones, à partir des sites sur des drones qu'on trouve sur étagères sur l'e-commerce. Oui. Donc, c'est évidemment le DJI, le DJI, le fameux drone chinois. Tous les drones aujourd'hui civils sont de manufacture chinoise. Mais par contre, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de les redesigner. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas acheter un drone et tout de suite l'envoyer sur le terrain aux soldats, d'ailleurs directement aux soldats et sans passer par le ministère, visiblement, moyennement confiance. C'est vraiment on customise en fait. Mm-hmm. On customise selon les besoins du terrain.
Ouais, selon si c'est la surveillance, si c'est de l'arme plutôt offensive. Un mot aussi sur Starlink. Hein. Starlink, donc très vite, c'est dès 2022, Elon Musk avait mis à disposition le réseau Starlink gratuitement. Bon, après, il a revu un peu son modèle économique, mais enfin, en tout cas, ils se servent beaucoup de Starlink, à tel point qu'il y a quelques semaines, il y a eu un gros piratage russe. Ils ont réussi Alors, les Russes avaient un système pour protéger leur propre réseau satellite et ils ont détourné un peu la technologie pour en faire une arme offensive, donc d'interférence magnétique avec des antennes sur des chars et qui vont repérer où sont pas loin des stations terrestres de Starlink. Et puis là, ils interrompent les communications ou ils les dégradent fortement. Mais comme ce réseau, lui justement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. On met une zone terrestre, on se connecte au satellite et la communication est faite. Et les militaires l'utilisaient beaucoup, bien que ce soit à usage civil. C'est dédié à un usage civil. Ils ne sont pas passés. Il n'y a pas les normes militaires de protection, etc. Mais Starlink continue à être l'un des réseaux phares là-bas.
Oui, j'ai rencontré l'un des distributeurs de Starlink, qui d'ailleurs a eu Elon Musk au début de la guerre au téléphone, selon lui. Et il me disait, nous, on n'avait pas forcément envie d'être distributeur, mais on avait un accès à Elon Musk et il était très content de nous fournir des antennes. Et effectivement, c'est essentiel pour eux. Starlink, c'est LiveCell ou les autres opérateurs terrestres ne fonctionnent pas, on peut compter sur Starlink. Et effectivement, ce sont des petits équipements qui se baladent partout, qui sont très faciles, qui sont assez accessibles. C'est largement moins de $300 l'abonnement par mois, donc ça marche très bien. Et en plus, quand j'étais là-bas, a été annoncé sur Twitter, sur X, donc évidemment
le Starlink
réseau,
Mini.
Le Starlink Mini, qui est une très,
on a
très
parlé
belle nouvelle.
Ici l'autre soir.
Exactement. C'est une excellente nouvelle pour les Ukrainiens parce que ça va permettre évidemment d'équiper de plus en plus de terrains de guerre. Et donc c'est vraiment un gros enjeu. Je rajouterais juste sur les drones en Ukraine, c'est que les drones civils sont de manufacture chinoise, pour compléter ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, les drones, le reste du monde fournit aussi des drones. Zelensky a prévu, je crois, jusqu'à 1,5 milliard de drones pour cette année. Il veut augmenter la production de 2 millions de drones cette année. Donc c'est énorme. Et il faut bien distinguer les drones civils, qui sont les DJI qu'on achète pour faire voler ça dans son jardin, des drones militaires qui sont, eux, majoritairement occidentaux, c'est-à-dire États-Unis, énormément de drones. On pense évidemment à des sociétés comme Parrot, qui bénéficient de ce conflit-là. Mais il y a des pays étonnants comme ça qui ont bénéficié de cette guerre des drones. Et pour terminer, juste un mot, si tu me laisses encore une minute. Si aujourd'hui on a des acteurs télécoms, équipementiers qui ont envie de participer ce pledge qui a été le besoin des télécoms ukrainiens, mais c'est Equality qui fédère cette communauté des ISP et des télécoms en Ukraine et qui va envoyer tous ces câbles, ces switches, et je pense que c'était bien faire cet appel ce soir.
L'appel est lancé. Bien, merci Marion Moreau de ce témoignage, et puis évidemment les reportages à retrouver sur Hors Normes, donc le média que tu animes. Alors on va rester l'univers des télécoms, justement, parce que là c'est l'opérateur AT&T aux États-Unis qui veut que les grandes entreprises technologiques, donc les Big Tech, contribuent au fonds de subvention des télécoms et du largement. C'est John Stankey, qui est le PDG d'AT&T, qui est allé voir la FCC il dit qu'il faut un fonds gouvernemental, les big tech doivent mettre au pot. C'est cet éternel débat, on aimerait aussi que ça se passe en Europe, mais là c'est une première, non Lucas?
Non, c'est pas une première, c'est un peu difficile de rebondir derrière le sujet, parce que ça paraît tellement futile que on va en parler, c'est pas une première. Depuis, les télécoms avaient le pouvoir quand on avait tous des GSM et qu'on payait nos abonnements 80 € par mois ou $100. Enfin, aux États-Unis c'est encore plus cher, c'est encore très cher aujourd'hui, et qu'on avait des dumb phones et pas des smartphones. Et quand on a commencé à avoir des smartphones et du broadband, de l'internet rapide, cette chaîne de valeur, ce qu'on appelle une chaîne de valeur, et donc la rétention de valeur dans cette chaîne a changé des gens qui avaient l'infrastructure aux gens qui avaient le software. On est passé dans un monde du software. Le problème des opérateurs, c'est qu'ils sont bien souvent issus d'entreprises nationales. C'est très commoditisé. Il y a eu pas mal de concurrence pendant longtemps, et donc les
câbles aussi aux États-Unis.
Il y a du câble, il y a tout.
Mais là, ce que j'ai, ce qui est nouveau, c'est quand même qu'ils se tournent vers.
Ils ont déjà essayé plusieurs fois.
Avoir un fonds gouvernemental.
La régulation, la taxe, ça c'est pas nouveau. Ça a été le cas aussi en France, etc. Mais en France, il y a un acteur incroyable qui est Free, qui est le seul dans le monde à faire ce qu'il fait, qui fait que la tension et la pression est tellement forte que personne dans le monde telco peut faire quoi que ce soit. Donc pour y revenir, c'est pas la première fois. L'autre, Starlink, c'est une conversation parce que Starlink, c'est un bypass, c'est un pontage qui permet de se passer de ces gens-là. Et avec un mini Starlink, on n'a plus besoin d'infrastructure. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça devient supranational parce que les opérateurs sont quand même nationaux aujourd'hui et très régulés. Il y a plein de questions à se poser là-dessus. Donc ça va être très difficile pour eux parce que Google fait du câble, fait de l'accès Internet aux États-Unis.
Mm-hmm. Bah, tous les,
les appels sont en voice over IP. Donc il y a probablement trop de pression dans le système, trop de concurrence, et les GAFA ont fait en sorte d'investir assez pour des choses qui ne sont pas de même échelle, mais qui...
Donc c'est un appel qui ne sera pas entendu.
Je pense que c'est très difficile, mais politiquement, ça peut marcher.
Bruno?
Ouais, ben moi, je me souviens d'histoires qui datent de l'époque de AOL. Alors, c'est pour dire au début des années 2000. Déjà, il y avait du lobby qui se faisait pour que des grandes telcos américaines et canadiennes aussi, de notre côté, qui faisaient du lobby auprès des instances gouvernementales pour que ces joueurs-là puissent ou doivent payer une partie de la bande passante qu'ils en prenaient. Évidemment, quand la vidéo est arrivée, vous imaginez, quand YouTube est arrivé, là, tout le monde a regardé du côté de Google en disant, vous êtes en train de prendre la moitié de la bande passante terrestre, est-ce que c'est possible de payer quelque chose? Et depuis, ça revient...
Puis il y a des Netflix et tout ça qui consomment énormément.
Exactement, oui. Mais ça revient, je vous dirais, probablement aux 4 ou 5 ans, et puis chaque fois, les gouvernements font la sourde oreille, parce que le lobby des géants de Google, Meta et même Microsoft sont très puissants. Alors, ils vont pas. J'ai pas l'impression qu'ils vont encore donner réponse à cette demande-là.
Elle
est là et elle existe.
Moi, c'est l'histoire de tourner vers la FCC, ce fonds gouvernemental. Alors, ils ont toujours
eu. Il n'y a pas de business case. Ils sont pas. Ils gagnent de l'argent. Ils en gagnent moins. Ils sont dans une concurrence forte. Mais il n'y a pas de business case pour. S'ils veulent arrêter, si AT&T veut arrêter Netflix et bloquer les IP Netflix, ils peuvent le faire.
Ils revoient sur leur serveur
parce que leur client réclame. Ils veulent régler une problématique économique à travers une régulation. Aujourd'hui, il n'y a pas de business case.
Bon, on n'y arrivera pas, Marion.
Non, puis alors encore moins aux États-Unis où la neutralité du net a été restaurée alors qu'elle avait été désinstaurée par Trump, à moins que Trump revienne au pouvoir, n'est-ce pas? On verra. Mais non, c'est compliqué, effectivement. Mais alors, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un installateur de fibres qui travaille chez Orange sur les bateaux, parce que c'est vraiment évidemment en mer aussi que ça se joue. Et en fait, il me disait que toutes les négociations géopolitiques pures, c'est-à-dire aller négocier dans chaque État de faire arriver un câble énorme, c'était les GAFAM qui le faisaient et que ça arrangeait bien les autres acteurs telco de ne pas avoir engagé des sommes énormes sur des CAPEX qui n'intéressent personne, effectivement. Et c'est toute la question du financement des CAPEX. Aujourd'hui, il y a peu de personnes mettra autant d'argent que les GAFAM sur l'installation des futurs 7G ou 8G. C'est tellement d'argent que finalement, c'est un marché quand même qui s'entend un peu quand même.
Les câbles marins, moi j'étais chez Facebook, premier jour on vous emmène en Irlande et on vous montre d'où partent les câbles, où ils arrivent, ils sont propriétaires, c'est les câbles qu'on va poser.
C'est Google et Facebook, les derniers
proposeurs, ce sont eux. Elle appartient aux GAFA aujourd'hui.
Allez, dernier sujet, Bruno, c'était toi qui voulais faire un faire-part d'essai. C'était la messagerie ICQ qui cesse son service sur le petit. C'était le OOO, ce petit signal qu'on écoutait tous. Bruno?
Ouais, exactement. Mais moi, j'entendais juste deux OO, moi, à l'époque. Peut-être qu'il y en avait trois en France.
Oui. Mais, c'est l'écho.
Donc, ça date de 1996. Ça a été le roi de la messagerie longtemps. C'était une création israélienne, par la suite rendue populaire lorsque AOL l'a acheté. Et puis, c'est ça. Presque 30 ans plus tard, c'est le champ du cygne. C'est Vika, le russe, qui l'avait. Mais finalement, comme il y avait de moins en moins d'intérêt par rapport à son utilité, ils ont décidé de tirer la plug, comme dirait Shakespeare. Et résultat, c'est un chapitre de l'histoire de la messagerie. C'est l'ancêtre des WhatsApp, des Messenger, à qui on dit au revoir aujourd'hui. Alors, ça valait quand même la mention.
Voilà, et c'était, voilà. Et on le dit, en plus, on le dit au revoir aujourd'hui, pile aujourd'hui, puisque ça va être débranché aujourd'hui, mercredi 26 juin. Voilà, on voulait faire un petit signe à ICQ, lancé en 96. Donc, il a fêté bientôt ses 30 ans. Merci à tous les trois. Merci Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Évidemment, on continue à te lire depuis la France, au Québec, à Montréal. Merci à Marion Moreau, journaliste fondatrice Hors Normes Média. Donc, retrouvez toutes ces infos, notamment sur toutes les structures, infrastructures télécom en Ukraine, sur le média Hors Normes Média. Et Lucas Perraudin, fondateur de Mula Digital. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Allez, on se retrouve dans un instant. Le Tech Flash, Léa Benyaïm. Et ensuite, on enchaîne. On va parler de la transition vers la mobilité électrique et puis ces étonnantes jumelles astronomiques à réalité augmentée. C'est tout de suite sur BFM Business.